la guerre de 14-18. Il était grand mutilé de guerre, il a perdu un œil, il a eu la croix de guerre militaire et avec palme. Bon, on a fait des rangements, on est en train d'aménager une autre pièce et je ne sais pas où est le livre qui est signé par un président de la République. Ça doit être, je ne sais pas si c'est Pompidou ou René Coty, je ne pourrais pas vous le dire. Et donc, si vous voulez, on était déjà traumatisés par la guerre. Et moi, quand je voyais passer les Allemands, j'avais une fausse terreur parce que, bon, ils avaient sonné. On avait une grande maison que j'ai toujours. Il y avait 8 pièces. Et la maison, pendant la guerre, a été réquisitionnée, si vous voulez, pour loger des soldats allemands. Avec ma mère qui travaillait à poste, mon père qui était sur la route, ma sœur avait 9 ans de plus que moi. Si vous voulez, mes parents n'étaient pas tranquilles de nous laisser. Ils avaient une petite bonne, et la petite bonne, elle avait 16-17 ans, elle nous gardait. Et un jour, donc, il s'est présenté un officier allemand, et il a demandé combien on avait de pièces. Bon, il a visité la maison. Il a dit deux enfants, enfin, il parlait très bien français. Et deux enfants, la pièce est. Ah oui, mais il y a les cousins qui viennent. Enfin, ma mère a raconté une histoire à dormir debout. Ça marchait sur les coups. Puis à la fin, il lui a dit, vous êtes une filoute. Parce qu'on ne voulait pas d'Allemands à la maison. Et on en a eu. Alors, on en a eu un. C'était. Il en avait assez de faire la guerre. Et il s'appelait Francis Béniche. Et je me souviendrai toujours. C'était un clown de cirque, par le fait. Il faisait la guerre parce qu'il est obligé, mais lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Et on lui avait offert on était donc ma sœur, la bonne et moi, assez jeunes quand même, et on lui avait offert une nef. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les nefs. C'est un fruit un peu qui ressemble à une prune un peu arrondie, et il n'a pas voulu la manger. Alors, on l'a coupée, on a mangé chacun d'un bout, et on lui a donné. Il a donc accepté de manger. Il avait peur d'être empoisonné ou des choses comme ça. Et je me souviens aussi, on a eu un officier allemand, alors là, qui était très bien élevé, et il avait dit qu'il viendrait nous voir s'il si n'était pas tué. Et donc, il a dû être tué puisqu'il n'est jamais revenu nous voir. C'était un officier, il s'appelait Alfred Jung. Et il avait un chien qu'il appelait Mirka, un superbe chien loup, mais il fallait pas approcher son maître. Hein. Alors il logeait, donc il avait une chambre chez mes parents. Et ma mère, qui était intrépide, avait une carte de France dans la cuisine et elle marquait l'avancée des troupes, si vous voulez, française, allemande, enfin russe, tout ça. Mon père, il dit, écoute, tu vas nous faire fusiller. Et il avait vu la carte. Alors, il n'a rien dit. Et ma mère s'est enfermée à la salle à manger pour mettre c'était la BBC, à la fin, le poste de télévision, pour écouter
Non, le TSF.
le poste de TSF, oui. Oui, il n'y avait pas la télévision, excusez-moi. Et donc, il disait rien, il donnait des leçons d'allemand à ma sœur, il corrigeait ses devoirs, et à la fin, quand ma mère avait fini d'écouter les informations, il lui dit permettez, il allait changer de poste, parce que naturellement, il ne fallait pas qu'elle reste sur le poste anglais, si vous voulez, bon, attendre parler du général de Gaulle, etc. Et il a toujours été très correct. Et je me souviens qu'un soir, on a sonné terriblement à la sonnette. On avait un perron avec quelques marches. Et des soldats allemands ivres se sont présentés. Et alors ils sont rentrés. Ils étaient, on peut dire, plus qu'ivres, saouls comme des bourriques. Et ils sont présentés chez mes parents. Et je me souviens que c'était l'anniversaire de la fête de ma mère. Ma mère s'appelait Marthe. Et Alfred Jung, l'officier allemand, avait apporté, qui était très correct, une boîte de gâteaux où c'était marqué Sainte Marthe. Des petits gâteaux, vous savez, comme on faisait avec des lettres de l'alphabet. Et ma mère ne voulait pas l'accepter, naturellement. Et mon père lui a dit, accepte, tu vas le vexer, il est bien élevé. Et bon, et avec les autres ivres-morts qui venaient, donc ils sont amenés avec des canettes de bière, des grandes bouteilles à ce moment-là, et ils ont bu, ils ont demandé des verres. Alors Alfred Jung, l'officier allemand, a dit, donnez des verres. Alors mes parents ont donné des verres. Et après, quand ils ont bu, ils ont jeté le verre, si vous voulez, comme la motoruse par le fait, par-dessus leur épaule. Et alors, j'ai autant vous dire qu'en allemand, l'officier leur a passé un sacré savon. Et ils sont partis tout penauds. Et il y a des voisins qui sont venus à la porte de mes parents pour voir s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, un peu de rescousse pour les mettre dehors. Il a dit non, 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 enfin, ça s'est arrangé comme ça. Et puis, bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, ma sœur a été convoquée. Elle devait avoir, je ne sais pas, 18 ans. Quel âge qu'elle pouvait avoir? On avait 9 ans d'écart, elle avait 17-18 ans. Et elle était convoquée à la commandature. Pas la commandature, c'était un endroit bon, qui ressemblait à la commandature, parce que la commandature se trouvait à la place de Monsieur Leroux. Monsieur Leroux, l'ancien maire. Et alors, donc, dans la rue de la Gare, maintenant, ça a été l'école de musique, c'est encore l'école de musique. Et donc, elle a été convoquée pour, ma foi, faire le ménage, etc. Et ma sœur s'est amenée un dimanche matin. Ma mère l'avait fait habiller, chapeau, tailleur élégant. Bon, c'était la mode des sockets, les semelles compensées, puisqu'il y avait que ça, les gants et tout, et elle s'est amenée, convoquée pour faire le ménage. Et avec ça, elle nous a raconté que ma foi, l'officier l'avait fait rentrer, enfin, les Allemands l'avaient fait rentrer dans le bureau, et il y avait deux jeunes femmes qui, elles, étaient en tablier. On leur a donné le seau, la serpillière et tout, elles ont brossé, enfin, etc. Et l'officier allemand l'a fait rentrer dans son bureau. Il lui a dit, mais vous n'êtes pas en tenue de ménagère, mais elle lui dit, chez moi, on a quelqu'un qui fait le ménage, on a une bonne. Et elle dit, le dimanche, on va à la messe. Mes parents m'envoient à la messe. Et c'est l'heure de la messe. Et puisque je suis convoquée, je ne pourrais pas y aller. Et donc, il lui a posé des tas de questions. Alors, elle lui a parlé de mon père, elle lui a parlé de tas de choses. Et l'officier a dit, je suis contre cette guerre, je suis obligée de la faire, un officier allemand, hein. Je suis obligée de la faire, mais prenez le torchon, essuyez mon bureau. Et au bout d'un quart d'heure de conversation, elle a dit à ma sœur, vous ne manquerez pas votre fils, vous pouvez aller à la messe. Et ma sœur, au lieu d'aller à la messe, est rentrée et racontée, naturellement, c'était à 100 mètres de chez mes parents, ce qui s'était passé. Et puis, bon, la libération, ben, je me souviens de la libération. J'étais jeune, alors naturellement, moi, je voulais voir comme les autres. Mais alors, j'ai vu passer le maréchal Leclerc, enfin, qui était général à ce moment-là, dans notre rue, qui, je l'ai très bien reconnu. Alors, les soldats jetaient du chewing-gum de chocolat. Ma mère qui disait, oh non, 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 parce que les Allemands essayaient d'abandonner les enfants en leur donnant des friandises. Et jamais mes parents n'ont voulu que j'accepte une friandise des Allemands, si vous voulez. Et alors là, bon, ils nous ont dit, vous pouvez manger, en fait, dans leur moitié français, moitié américain. Et en allant, alors j'ai insisté pour aller sur la place de l'Hôtel de Ville. Et je ne sais pas si ça doit être ce jour-là ou le lendemain, je ne sais plus. J'ai vu le général de Gaulle, si vous voulez, de très loin, il dépassait largement de ça, étant assis, étant très grand. Je l'ai vu de loin. Depuis, bon, comme il habitait Colopé, les deux églises après, donc on l'a vu souvent, comme on voyait Madame de Gaulle. Et donc, on est allé sur la place avec ma mère. Et alors, ils ont tendu des femmes qui avaient eu des relations avec les
Collaborer.
Allemands, collaborer, enfin collaborer, ou pas collaborer, dénoncer. Il y en a une qui était sur le. Enfin, j'ose pas dire le nom parce que maintenant elle est morte, de toute façon, mais enfin. Peut-être qu'elle a encore de la famille. Son mari tenait un garage non loin de chez mes parents. Lui, c'était un collabo, mais elle n'y était pas du tout. N'empêche que, bon, ben, il recevait des Allemands. Elle était tondue sur la place. Et à la fin, plusieurs femmes ont été tondues. Ma mère trouvait déjà que ce n'était pas un spectacle pour la jeune que j'étais. Et on a parlé. On a pris en otage le docteur Goupil, c'était un vieux médecin, et qui est un autre médecin par un moment, et on a parlé d'éculotter, si vous le voulez, pour lui donner une fessée. Et ma mère m'a tiré d'un bras énergique et m'a fait rentrer à la maison. Elle a dit, c'est pas un spectacle pour les enfants, alors est-ce qu'ils l'ont fouetté, je pourrais pas vous dire. Mais enfin, moi j'ai des souvenirs de la guerre, et je me souviens qu'une fois, on avait une amie de ma sœur qui chantait très bien. Quand les Allemands sont partis bombarder, ça devait être Munich ou Stuttgart, je ne me rappelle plus exactement parce que bon, j'étais jeune à l'époque. Et les Allemands passaient presque, on avait l'impression qu'ils passaient au ras des toits, si vous voulez, on les voyait, mais énormes. On s'est dit, mais c'est pas possible, ils vont tomber sur les maisons et ils allaient bombarder l'Allemagne. Et mon père était tellement ravi avec cette jeune fille qui chantait à la perfection, qui s'en mit à chanter à tue-tête, tellement on était ravi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Les souvenirs ne me reviennent pas. Bah si, on a évacué, on est obligé de partir parce que ma mère a été obligée de quitter la poste. La poste a été. Si vous voulez, tout le monde était obligé de partir parce que on disait que les Allemands arrivaient et devaient arriver le lendemain ou le soir. On ne savait pas qui violait les femmes. Enfin, on racontait, c'était peut-être vrai, peut-être pas vrai, j'en sais rien. Et bon, bref, je me souviens que ma mère a commandé une voiture, que mon père, de la guerre 14, avait quand même un œil en moins, ne savait pas conduire, n'avait pas de permis. Il a pris 800 et nous sommes partis jusqu'en Dordogne, pas loin d'Ezizi, un petit village qui s'appelait Saint-Cyprien. Et bizarrement, on a retrouvé deux familles barralbines là-bas. Bon, on a sympathisé, il y avait beaucoup d'Alsaciens, on a sympathisé avec le maire qui s'appelait Monsieur Pénicaud à ce moment-là. Et j'ai gardé une vieille photo, mais je ne peux pas vous dire où elle est. Et ma mère, nous sommes restés 2 mois en exode et on était obligés de remonter. Et moi, à force de manger des conserves, je suis revenue avec une fièvre. Je suis restée entre 40 et demi et 41 de fièvre, si bien que quand on a passé la ligne de démarcation, mon père, qui avait quand même 800, bon, calait quelquefois dans les côtes, etc. Ma mère était à côté avec le code de la route pour lui dire de débraye, accélère, enfin, etc., etc., pour essayer d'avancer. Et quand il a vu les Allemands se baigner dans le Cher, mais alors là, moi qui étais malade, ma mère a dit, mais ils se baignent tout nus dans le Cher. Alors, pour une gamine de 6 ans, de 6-7 ans, tout nu, mais je dis, mais c'est pas possible. Et alors, ce qui m'a surpris, même fait rire, ils étaient tout nus, mais ils avaient gardé le ceinturon. Et bon, il y en a qui passaient en mettant des croix gammées sur la voiture. À mon père qui bouillait, ma mère dit. Écoute, essaye d'avancer, naturellement, il ne pouvait pas avancer. La voiture calait, il était tellement énervé. Ma mère lui disait, tu vas te faire remarquer. Enfin, on est arrivé quand même à Varsovie. Alors, les voisins m'ont hébergé, mais je me souviendrai toute ma vie, c'est que dans la chambre du premier étage dormaient mes parents. Ma mère avait une jolie capeline noire avec des fleurs fuchsia, c'était la mode. Et on faisait, dans ce temps-là, c'était pas des slips, c'était des culottes en crêpe de Chine avec le soutien-gorge et ils étaient là à la fenêtre Alors, c'est après, je me souviens de plus rien parce que je devais avoir une
Habillée avec
fièvre.
les vêtements de ta mère.
Oui, habillée avec
Les sous-vêtements de ta mère.
les sous-vêtements de ma mère et la capeline sur la tête, c'était quelque chose d'incroyable. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, on a eu un Allemand qu'on était obligé d'héberger. Alors celui-là, c'était le véritable Aryen avec de la morgue. Il était infect. Alors il venait, c'est un peu décousu ce que je vous dis, mais enfin, les souvenirs reviennent pas toujours. Il montait les escaliers et il avait fermé la porte de sa chambre et la porte du placard. Et ma mère, quand elle a vu ça, lui a fait ouvrir la porte de la chambre et il n'a jamais voulu ouvrir la porte du couloir. Et ma mère a retiré les draps du lit et le lendemain, il lui a demandé pourquoi les draps étaient retirés. Et elle lui a dit, d'abord vous recevez ma fille était malade parce que j'ai eu la scarlatine, varicelle et je sais plus quoi, rougeole les uns derrière les autres. J'étais alitée, je ne suis pas tranquille et je ne veux pas que vous ameniez des Allemands, enfin des frères d'armes avec vous. Vous buvez tout, on ne sait pas comment ça peut dégénérer. Et elle est allée à la commandanture. Et je ne sais pas comment elle s'est débrouillée pour voir l'officier qui s'était présenté, enfin rue Général de Gaulle, on appelait rue de la Garde dans le temps, chez mes parents. Et elle lui a dit qu'elle ne voulait plus d'allemand, que ça ne se faisait pas. Et il lui a dit, je comprends très bien. Il dit, vous savez, j'ai des enfants aussi et vous travaillez tous les deux, vous n'aurez plus personne. Et le fait est, on a été tranquille. Mais pendant la guerre, mes parents m'ont envoyé à Maisons-lès-Soulaines, à quelques kilomètres, parce que Bar-sur-Aube avait été déclarée guerre ouverte, ville ouverte. Et comme naturellement je m'ennuyais là-bas, on m'a fait mettre à Fontaine, c'était à 2 km de Bar-sur-Aube. Mes parents venaient le soir. Bon, ils s'étaient arrangés pour payer la pension à une dame qui était gentille, mais enfin un peu revêche. Et je me souviens qu'un jour, ça va vous faire rire, tout le monde est venu à 11 h du soir dire les Américains arrivent. Les Américains ont pris le chemin
À cause de trois.
la côte de Troie par le fait. Ils sont arrivés. Bon,
Viens
et moi,
directement de
j'étais
Troie,
tellement
à
pressée de
cheval.
voir, naturellement, j'étais en chemise de nuit et tout. Et bon, il n'y avait pas les commodités sanitaires dans les maisons qu'il y a actuellement. Il y avait le pot de chambre au milieu de la pièce. Et j'ai renversé le pot de chambre pour aller voir les Américains en chemise de nuit et pieds nus sur la place. Et je me souviens de cet énorme temps que c'était la joie, ces hurlets, etc. Mais avant, enfin pendant que j'étais là-bas, je reviens en arrière. Je me souviens très bien de la guerre pour une bonne raison, c'est que mes parents habitaient tout près de la gare. Et la gare a été bombardée. Et j'ai vu les bombes tomber sur la gare, si vous voulez. Et moi, je ne savais pas si ma mère travaillait, si mes parents étaient partis, ma sœur était où, on ne savait pas. Et comme on habitait à 100 mètres de la gare, j'ai hurlé, hurlé, couru. Et il y a un jeune homme qui était camarade de ma sœur qui m'a dit, écoute, je vais aller me renseigner de voir si la maison, elle est toujours. Mais je lui dis, c'est pas la maison qui m'intéresse, c'est ma famille. Et mon père, qui était agent d'assurance, avait trouvé rien de mieux que de prendre sa machine à écrire. Naturellement, c'était son outil principal, si vous voulez, de la mettre au fond du jardin. Et ma sœur a ouvert toutes les fenêtres, si bien qu'on était la seule maison à ne pas avoir un carreau cassé. Bon, ben, vous savez, c'est difficile.
Et
De
vous êtes de 30, vous êtes de, vous êtes né,
33.
vous êtes né quel jour et où?
Moi, je suis née à Bar-sur-Aube le 14 octobre 1933.
Alors, est-ce que vous pouvez me donner votre civilité, votre nom d'épouse et de jeune fille?
Mon nom d'épouse, bah, c'est Ribot, fatalement. Et mon nom de jeune fille, c'est Humbert. Humbert.
Votre prénom?
Marcel.
Et vous êtes né, alors vous êtes né rue de la Gare, c'est ça?
Moi, je suis née au 31 rue Général de Gaulle. Maintenant, c'est la rue parallèle. Là, la maison m'appartient.
Vous êtes née chez vous?
Oui.
Aussi.
Accouchée par une... Enfin, ma mère a été accouchée par une sage-femme qui s'appelait Madame Clavel, dont le mari était un grand résistant. D'ailleurs, vous avez encore le fils Clavel qui est là, qui peut témoigner de tout. Il travaillait pour... ça devait être le commandant Bonneval. Et quand il était pris, parce que bon... Il a été déporté, oui, mais quand il était pris, il avalait un papier compromettant, si vous voulez. Si bien qu'ils n'ont rien trouvé, mais ils l'ont quand même emmené et il est allé au camp de Buchenwald. Et je me souviens, on se trouvait, quand on l'a vu revenir, c'est le cas de le dire, il nous a dit bonjour, un homme.
Il descendait du train.
Oui, qui descendait du train après la libération. Et donc. Il a dit à ma mère, bonjour Madame Imbert, mais vous ne me reconnaissez pas? Ben non, qui êtes-vous? Monsieur Clavel, naturellement, il faisait combien? Je ne sais pas, 30 kilos, 40 kilos, je ne sais pas. Alors que c'était un homme
costaud.
Bien costaud, tout. Et vous pourriez interviewer son frère. D'ailleurs, on avait des livres sur cette époque-là et je ne sais pas.
Je n'ai pas souffert de la guerre, moi. Parce que mon père était encaisseur à l'UDF.
La guerre m'a marqué.
Des campagnes. Dans les campagnes, et dans les campagnes, on leur ravitaillement, on lui ravitaillement, ils ramenaient le ravitaillement. On n'a jamais souffert de guerre.
Moi, la guerre m'a marqué, parce que je me souviens qu'à 6 ans, on était obligé d'amener à l'école notre bûche de bois pour mettre dans un grand poêle godin. Et on nous a fait mettre, la dernière fois, je me souviens, bon, il y a une alerte. Alors, mon mari, lui, il était au collège d'en face. Moi, j'étais à l'école des jeunes filles, qui doit s'appeler l'école...
On allait vers la rivière, derrière Mato, nous.
Oui, c'est pas Léon Bérard qu'elle s'appelle maintenant.
Maintenant, Léon Bérard,
je
ne
sais pas. Et on nous a fait mettre contre les murs. Et ma mère a dit, tu n'iras plus à l'école, c'est pas la peine. Et voilà.
Ouais.
Bon, c'est un peu décousu ce que je vous ai dit, mais
c'était... bon... On avait ça, nous, l'alerte, on allait derrière Mato, c'était marrant, dans la nature, vers la rivière.
Et vous êtes allé à l'école jusqu'où? Vous êtes allé à l'école où et jusqu'à quel moment?
Jusqu'à quel moment à cette époque-là? Alors là, je ne peux pas vous dire.
Non, vous êtes allé à l'école. À l'école, vous êtes allé à l'école.
Oui, oui. Ah, jusqu'à 17 ans.
Vous
après.
Aviez
où? Ben, cette école, c'est l'école Léo Bérard.
Oui, les filles, l'école des filles. C'est des filles.
L'école
vous
des filles,
c'est pareil.
Comment?
Vous saviez ce que vous vouliez faire?
Bah, non. Mon père voulait, ma mère voulait que je travaille avec mon père. Moi, ça ne me plaisait pas tellement. Et j'aurais voulu... mon rêve, ça aurait été de tenir un commerce. Alors là, avec mes parents, ça n'aurait pas été possible. Mon père aurait dit oui, mais ma mère, c'était...
T'étais bien travaillé avec ton père dans l'assurance.
Oui, j'ai travaillé avec mon père dans l'assurance. Mais enfin, dire que ça me plaisait, ça, c'était pas mon truc. Moi, quand je me suis mariée donc avec mon mari, on tenait maintenant, à l'âge qu'on a, bon, moi j'ai 78 ans, mon mari il a 80, j'étais contente d'être au contact des gens, de la clientèle, si vous voulez, de vendre de
Elle emmenait son père en voiture, c'est le chauffeur de son père. Et elle travaillait au bureau avec lui. Quoi.
Mon père n'a toujours pas eu de permis, bien sûr, et bon, ben... La voiture, pour vous en finir, la voiture, mes parents avaient une Celta 4 et la Celta 4 a été emmenée, malgré que les quatre roues soient retirées par les Allemands sur un camion et bien sûr ils ne l'ont jamais revue. Et alors je pourrais vous parler d'un grand résistant qui s'appelait Monsieur Noël, qui a été député de la Moselle, et il était de Bouzonville, qui a travaillé, il avait une traction rouge, alors là il était connu de tout Barcelo, tout le monde le prenait pour un collabo, et ma sœur qui était, bon, elle travaillait à la poste comme téléphoniste, parce qu'autrement on amenait les jeunes filles en Allemagne, alors ma mère lui a dit, bon bah, tu vas travailler à la poste avec moi, et donc un soir il a débarqué chez mes parents, en leur disant, ça faisait déjà plusieurs fois qu'ils venaient, ma mère n'avait aucune confiance en lui parce qu'elle se disait, mais c'est pas possible, il travaillait à la commandature, mais tu te rends compte, enfin, etc. Et mon père lui disait, tu vois, avec ta carte, tu vas nous faire. Bon, et je parle alors en ancien franc, naturellement. Il avait apporté, ça devait être 200 000 anciens francs, mais les francs de cette époque-là, je ne sais pas ce que ça ferait aujourd'hui, chez mes parents, leur disant, vous gardez ça, et naturellement, avec cet argent-là, c'était pour les résistants. Et il a fini député de la Moselle, et malheureusement, il conduisait très très vite. Et il a loupé un virage et il s'est tué contre un arbre. Mais il a
C'est un
été.
espion. Au
Non.
service des Français, pas des Allemands.
Mais, non, mais c'est un grand résistant. Je m'en souviens très bien. Il m'appelait ma petite chinoise parce qu'il trouvait que j'avais les yeux en amande à cette époque-là. Et à chaque fois, quand il revenait, il m'amenait à la librairie. Il me disait, tu achètes tout ce que tu veux. C'était amusant. Enfin bon, bref.
Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Vous avez rencontré votre mari?
Ah ben c'est simple, mon père avait la manie d'acheter des petites parcelles de terre, si vous voulez, des petits vergers, exactement. Et comme autant à ma sœur qu'à moi, il achetait des petites parcelles de terre, etc. Et il s'avérait qu'il a acheté une parcelle de terre qui était un verger, enfin à moitié en friche, et il y avait des arbres fruitiers. Et on est allé cueillir les pommes, les poires, et on avait gaulé les poires. Et bon, mon mari était avec une équipe de vendangeurs. Et si vous voulez, bon, bah, tout le monde a ri. Les poires, ça ne se gaulait pas. Et pourtant, mon père était un fils de cultivateur. Mais vous voyez, et c'est comme ça qu'on s'est causé. Voilà.
Et qu'est-ce que vous connaissiez des vignes à ce moment-là?
Rien. Rien, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai jamais travaillé aux vignes. Je tenais le bureau, je tenais les comptes, mais je
Le
m'occupais de la
champagne?
clientèle, je faisais les exportations, le champagne. Mais les vignes, alors là, c'était, ça me passait littéralement au-dessus. Hein.
Ça vous a pas fait peur, l'épouse un vigneron?
Ben, vous savez, quand on s'est marié, on n'avait pas d'argent. La première année. On s'est marié
En 56.
un 13 septembre, non, un
17
17
septembre
septembre
56.
56. Mon fils est né en 57. Donc la première année, si je me souviens bien, on a gelé les
On a
vignes ont
joué
gelé à 80%.
Oui,
Et l'année
80%.
de naissance de mon fils, à 100%. Ma mère m'a dit, mais quelle idée que t'épouses un gars comme ça, mais il serait incapable de vous faire vivre, etc. Mais j'ai dit, s'il y a que ça, moi ça ne m'embête pas, j'irai travailler, mais. Bon, et puis, quand on mangeait du fromage, on ne mangeait pas de fruits, enfin, etc. On l'a eu sec au début, mais on s'est débrouillé. Et puis, bon, ben, on a fait notre trou et on est arrivé à quelque chose quand même. Et voyez, mon fils, il a une maîtrise de droit, il fait des vignes.
Mais alors, dans les années où ça n'allait pas trop, fin des années 50, début 60, votre mari disait qu'il voulait acheter plus de parcelles.
M'étendre, oui.
Oui,
N'a pas été
mais
d'accord avec mon père.
mon beau-père et moi, enfin, moi, j'étais pas d'accord parce que je me suis dit, c'est mal parti, si ça gèle encore, on va se casser le nez. Et si vous voulez, bon, ben, on avait quand même notre fils qui était né en 57. Hein. Et mon beau-père, j'ai été trouver mon beau-père et je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, exactement comme vous, il ne faut pas qu'il fasse ça. Bon, on l'a peut-être freiné. Est-ce qu'on aurait réussi ou pas? Je ne sais pas, mais c'était la prudence. On a joué.
Quel était l'enjeu alors? Comment s'était présenté cette histoire-là? Enfin, c'est-à-dire que votre mari voulait acheter ou comment ça se passe? Comment il vous
Non,
a
il
convaincu?
aurait voulu s'étendre, mais bon, il mettait tout, si vous voulez, dans le commerce, et on vivait chichement. Alors, je ne sais plus exactement. Tu voulais,
Comment?
t'as voulu acheter. Qu'est-ce que tu as voulu acheter?
J'ai acheté l'immobilier, j'ai fait l'immobilier à ce moment-là.
Non, mais avant, tu voulais t'agrandir, tu voulais avoir une grande maison de champagne. Et je t'ai dit, bon, ben. on avait fait la cave, on a construit la maison, acheté le terrain, construit la maison et fait la cave. Et or, je lui dis, si on a grandi, on va se trouver dans l'eau, parce que l'eau, si vous voulez, n'était pas très loin, ça aurait inondé. Et j'ai eu peur, franchement, avec un enfant, qu'on n'ait plus d'argent pour vivre et qu'on soit dans la misère, tout simplement.
Mais l'avenir appartient aux audacieux, hein, pas aux gens qui ont peur. Hein.
Oui, mais enfin, on s'est pas trop mal débrouillé jusqu'à présent.
Aujourd'hui, je serais bien plus riche qu'on est, hein. Mais on est mortel, on ne sera pas plus heureux.
Ça, c'est à voir. C'est à voir.
Et ensuite, alors, comment vous êtes fait à tout ça?
Comment avez... À moi, au commerce, c'est très bien. Ça, je vous dis, la clientèle, d'abord, voulait se faire servir, mon mari peut le dire, par moi et mon mari, naturellement. Mais vous savez, les clients, c'est pas toujours facile parce qu'il y en a qui venaient et restaient 2 heures à bavarder avec vous avant de dire ce qu'ils voulaient, etc. J'en ai même qui sont venus, bon, on faisait la dégustation dans ce temps-là. Et la dégustation, on était obligé d'arrêter parce que les gens venaient à 5, 6 et partaient sans acheter de champagne.
Le curé qui avait de la bénédiction.
Oui. Et un jour, j'ai eu la visite de 2 moines. Bon, qui m'ont montré qu'ils venaient d'Alsace. Et le fait est que le coffre, il était bien rempli avec du vin d'Alsace, et etc. Alors, ils ont demandé à goûter le champagne. Bon, moi, j'ai dit, ils sont intéressés. Bon, je leur fais goûter le champagne. Ils sont restés assez longtemps. Et à la fin, ils m'ont dit, bon, ben, ma chère enfant, on te bénit, on te donne la bénédiction. Et ils sont partis. Alors, depuis ce temps-là, on a dit, bon, c'est terminé. La dégustation, ça sera pour les clients qui prennent du champagne, mais pas pour d'autres. Voilà. Mais moi, dans les vignes, si vous voulez, je peux pas je n'y connais rien.
Et à quel moment vous avez commencé à avoir plus confiance dans l'activité de la vigne?
Ah ben, quand j'ai vu quand même que mon mari avait une petite clientèle, enfin c'était ma belle-mère qui s'en occupait, et si vous voulez, j'ai doublé la clientèle. Alors là, bon, ça s'est pas fait en un jour, il n'y avait pas internet et tout, on n'a toujours pas internet, mais bon, là je me suis dit, bon, ben, ça marche.
Et qui étaient vos clients?
Quand c'était ma belle-mère qui s'en occupait, c'était des gens plus simples, si vous voulez. Et quand on a fait construire la maison n'était pas telle qu'elle est en ce moment, ça fait 3 fois qu'on la modifie, et c'était une petite maison de 4 petites pièces. Et les gens osaient déjà, la clientèle qu'avait ma belle-mère, n'osait pas venir ici parce que, ah oui, dans ce temps-là, ils ne nous connaissaient pas d'abord. Et puis, ils nous prenaient peut-être pour des gens plus aisés, qui étaient mes beaux-parents, et ils n'osaient pas venir. Et de fil en aiguille, bon, j'ai pu contacter d'autres personnes qui, par relation, m'ont fait connaître d'autres personnes. On a eu des médecins, on a eu une clientèle plus libérale, si vous voulez. Mais les ouvriers, ils sont toujours chez nous. Il y en a qui ne sont plus venus, mais enfin... On a augmenté notre clientèle comme ça.
Mais des particuliers?
Des particuliers, oui. Ah, ben, il y avait des sociétés, oui, des sociétés qui vous prenaient une certaine quantité de champagne, mais ils vous chinaient des prix tout à fait dérisoires. Et en plus, ils prenaient leur commission sur sur les bouteilles qu'ils revendaient à leurs amis. Ça s'est vu plusieurs fois.
Oui, ça, oui.
Oui. Mais moi, à l'époque, bon, on faisait peu d'exportations, mais j'adorais faire des exportations. Je me souviens, je ne sais plus en quelle année c'était, mais enfin, il y avait 12 papiers à remplir pour faire une exportation. J'espère que ça s'est amélioré depuis. Alors, quand mon fils a repris, il a dit des exportations terminées, je ne vais pas ça. Et mon fils voulait être notaire, vous voyez.
Comme dit ta mère, c'est dans le sang, c'est dans ta vie.
Et est-ce que c'est facile de passer de, vous disiez, hein, des moments difficiles dans les années 50, fin des années 50, ouais, à une prospérité? On ne se pose pas de questions?
Non, parce que ça s'est fait insensiblement, si vous voulez. Ça s'est fait insensiblement. Pas d'un seul coup, si vous voulez. Alors bon, et puis moi, je pourrais avoir une fortune, m'appeler Pinault ou Dassault ou n'importe quoi, que je n'aurais pas la grosse tête. Ça, c'est pas du tout mon genre. Et vous voyez, ça me gêne de parler. Mon père disait que j'étais toujours trop timide et trop modeste, ce qui était un peu vrai. Bon, avec l'âge, je reprends de l'aplomb, heureusement. Mais non, j'aurais pas changé mon train de vie pour autant.
Je disais, est-ce que c'est facile de passer de moments difficiles, d'une vie un peu difficile, à la prospérité?
C'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre sens.
On ne se pose pas de questions?
Non. On ne se pose pas de questions, non.
Non, parce que je me dis, c'est
C'est venu
venu.
insensiblement.
Voilà.
Ça a mis du temps. Hein.
Ça s'est pas
Mais
fait
à
sur
Hydrapi,
quelques
on en
années.
parlait. Quand on avait payé les ouvriers à l'époque, il restait plus rien. Hein. Il restait plus grand-chose. Hein. Les ouvriers qui sont sociaux, ça revient cher.
Ah ben les ouvriers étaient payés, mon mari avait combien? Trois ouvriers?
Le plus possible, le plus cher possible, lui paye.
Oui,
Il vient
et
encore me voir
nous,
aujourd'hui.
on avait, bon, on était, si vous voulez, bon, on ne mélangeait pas la caisse personnelle et la caisse du commerce. Et si vous voulez, quand mon mari me donnait mon mois, bon, ben, il y avait ce qui restait après avoir payé les ouvriers, ce qui était normal. Alors j'avais mon mois en plusieurs
Ils
fois.
disent que j'étais
Bon,
un bon
c'est tout.
patron, sauf que j'étais très maniaque. Il paraît que 3 fois il avait le même récipient. Mais je suis
Ça
désolé,
n'a pas
ce qui se
changé.
boit, ce qui se mange, me semble être d'une propreté impeccable. Donc mes récipients étaient bien lavés. Champagne, on se boit, hein. Donc là-dessus, je ne pardonnais pas. L'hygiène alimentaire, je suis terrible. Encore maintenant.
Mais est-ce que Bar-sur-Aube a changé entre les années 50 et les années
Ben,
80?
Bar-sur-Aube avait grandi en population.
Oui, mais
L'industrie marchait bien, puis l'industrie s'est écroulée
maintenant ça
maintenant.
régresse.
Heureusement qu'il y a le vignoble, autrement Bar-sur-Aube serait complètement écroulé. Hein. C'est maintenant le vignoble qui fait vivre la ville.
Et est-ce que, puisque Bar-sur-Aube c'est quand même assez grand, enfin par rapport au petit
Il
village
y a
où il y a
5 300 ou 5 400
6 000
habitants,
habitants,
c'est
6 000 habitants.
pas.
Mais par
Oui.
rapport au nombre de gens qui vivent
Oui.
du vignoble,
Oui.
est-ce que ça représente une caste ou est-ce que c'est quelque chose
Ah ben,
qui...
ils sont pas à Bar-sur-Aube même, ils sont tout autour. Ils viennent faire leurs achats à Bar-sur-Aube. À
Oh ben
Bar-sur-Aube, ça
non,
existe,
non.
8, 10, mais pas
Non,
plus.
les jeunes font leurs achats sur Internet, ils
Oui, mais
vont dans
enfin, ils
les
viennent quand même à
grands.
Bar-sur-Aube. C'est grâce aux vignerons que le commerce
Ah
tourne à Bar-sur-Aube, je suis désolé. Moi.
Mais
oui, c'est vrai.
est-ce que les vignerons forment un peu quelque chose de... sont groupés, sont unis ou pas?
Ah
Pas
ben, on a un
toujours,
syndicat des
pas
vignerons, mais on n'est
toujours.
pas unis pour acheter, je comprends pas. On a un syndicat des vignerons, bien sûr, qui
Oui,
est relié à
mais
Épernay, qui est le... enfin.
vous n'êtes pas toujours unis. Vous n'avez
Christophe.
pas toujours été unis avec les vignerons, vous pensiez différemment, vous.
Oh,
Tu
il n'y a pas de
me.
problème, hein.
Maintenant.
Il n'y a jamais eu de problème.
Maintenant, mais tu me disais autrefois que.
Il n'y a pas de problème, hein.
Ben,
Je n'ai
la
pas
preuve.
souvenir d'avoir des problèmes terribles.
La preuve, quand vous faisiez les banquets des vignerons, il y en avait qui faisaient les
Oh, il y a
banquets des vignerons
toujours
à
des brebis
Bar-sur-Aube, il y
galeuses.
en avait d'autres
Il y a
qui allaient
toujours des
faire ça à
brebis
la
galeuses,
campagne
mais ça, c'est
de
pas.
Bar-sur-Aube.
Oui,
Bon,
mais
parce
ça, c'est pas
qu'ils n'auraient
grave,
pas les
ça.
mêmes points de vue.
L'ensemble, on est très unis, l'ensemble.
Ah ben maintenant, peut-être, oui.
Non, c'est pas grave, ça.
C'est une idée à défendre, de toute manière, l'unité.
Comment?
L'unité est une idée à défendre.
Ben c'est sûr.
Oui, bien sûr. Ouais. Voilà ce qu'on peut vous dire.
Et sinon, puisque au niveau des parcelles, par exemple, il y a une valeur très importante au niveau de foncière. Est-ce que la transmission est facile dans ces cas-là?
La transmission?
La transmission du patrimoine?
Ben, non. Parce que c'est crevé d'impôts maintenant. Au prix des terres, hein, des vignes. Les vignes valent très cher. Et ça ne fait pas le bonheur des jeunes. Hein.
Non, mais maintenant, les vignes sont notre fils.
Oui, ça donne fils de
D'ailleurs, comme il
Il y a
était
longtemps.
troisième clerc,
Il y a bien longtemps qu'elle lui appartient.
il a travaillé 3 ans comme troisième clerc à Langres. Et quand il a vu que ça gagnait rien, il a voulu reprendre les vignes. Et donc, nous, on lui a laissé, mon mari a le droit à combien? 40 arts avec 40 arts ou 30 arts.
De quoi faire?
De.
Ah, 30 ans. Non, mais
Bon,
je
il y
mais
avait
non,
ça.
j'ai eu 90 ans, mais j'ai 30 ans pour moi.
Oui.
Alors.
Et il fait du champagne à une coopérative de la Marne.
Oui,
Et pour le.
j'ai
Ah bon,
expliqué,
t'as
j'ai
expliqué
expliqué, oui.
alors.
Oui, donc, continuez.
J'ai expliqué.
Pour ne pas gêner la vente de mon fils, si vous voulez. Voilà.
Oui, mais je n'ai pas mon fils comme ça.
Parce que sinon, ça se télescoperait, ça n'irait pas.
Comment?
Sinon, ça n'irait pas.
Ben, je ne vais pas avoir deux du champagne ici. Je lui ferai de l'ombre. Donc, je suis bien dans la marde.
Non,
puis
alors, à ce moment-là, il faut avoir des caves séparées ou des...
Je lui ferai de l'ombre, mais non, ça n'irait pas.
Ça n'irait pas. Puis on a qu'un fils, donc pas de problème. Qui est célibataire, en plus.
Alors, tout ce qu'on peut vous raconter.
Bah, y a des souvenirs que je pourrais dire un peu plus, mais ça ne me revient pas tout de suite.
D'accord, entendu. Ben, je vous remercie bien.